Chapitre 23. Votre sainteté. Conformément à vos instructions, je me suis rendu sur les planètes où circulent les étranges rumeurs dont nos missionnaires nous ont informés. À la suite des innombrables témoignages que j'ai été amené à recueillir et à vérifier, avec l'aide très précieuse des inquisiteurs mentaux, il m'est clairement apparu que ces bruits ne sont malheureusement pas dénués de tout fondement. Nous ne nous trouvons pas en cette occasion devant les habituelles affabulations, contes, légendes dont sont friandes les âmes simples du peuple, mais devant des faits, je le crains, réels. Dans l'esprit des inquisiteurs, il ne subsiste aucun doute. Ces brusques apparitions et disparitions ne constituent pas des illusions d'optique ou autres mirages. Elles sont encore moins les produits d'imagination fertile ou les fruits enfiévrés d'hallucinations collectives. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que la manière dont cet homme et cette femme ont disparu de l'île Selpidienne n'a jusqu'à ce jour reçu l'éclairage d'aucune explication plausible. Personnellement, je me refuse catégoriquement à envisager l'hypothèse de la noyade, comme l'ont laissé supposer certaines conclusions pour le moins hâtives. Je voudrais vous signaler à ce propos une troublante coïncidence. Les seuls objets que l'on ait retrouvés sur l'île sont ces vieux vêtements censés appartenir à cet homme et cette femme. Telle découverte amène à supposer, en toute logique, qu'ils se sont volatilisés dans un état de totale nudité, cette situation de péché si redoutée de nos cœurs. Or, plusieurs témoins, cités à comparaître devant l'Inquisition, nous ont affirmé que l'homme et la femme qu'ils ont vus soudainement se matérialiser et disparaître devant eux étaient complètement, animalement, scandaleusement nus. Quoi qu'il en soit, il y a là un grand mystère à élucider. J'ose attirer l'attention de votre sainteté sur l'urgence de la situation. Vous savez mieux que moi de quelle nature versatile sont les gens du peuple. Ils sont prompts à se détourner de la voie unique, de la vérité, prêts à épouser n'importe quelle cause hérétique, pourvu qu'on veuille bien leur en fournir le prétexte. Cet homme et cette femme représentent un grave danger pour l'Église, votre sainteté, car si les peuples du Nouvel Empire se piquaient d'orner ces apparitions de broderies miraculeuses, de les idolâtrer en tant que manifestations divines, nous n'aurions bientôt plus aucune emprise sur eux. Les croix de feu, dépouillées de leur rôle dissuasif et punitif, ne deviendraient plus que de fallacieuses occasions d'exalter l'aspiration au martyr qui sommeille en chacun de ces mécréants. Ils se laisseraient alors brûler avec joie plutôt que d'abjurer leur erreur. Rien de tel que le ravissement extatique sur la croix, symbole de la souffrance expiatoire, pour susciter comme traînée de poudre de nouvelles vocations schismatiques. Il est capital que notre nouvel ami mette immédiatement ses grandes capacités à l'œuvre et découvre rapidement quel secret scientifique se cache derrière ces apparentes pratiques de sorcellerie. Il faut que nos missionnaires puissent fournir une explication limpide, rationnelle, aux nombreuses questions qui ne manquent pas de se poser à propos de ce mystère. C'est toute la crédibilité de notre très sainte Église, fondement même de la religion, pierre angulaire du Verbe du Kreutz, qui est en jeu. Pour terminer ce rapport, votre sainteté, voici quatre témoignages que j'ai cru devoir extraire des archives de l'Inquisition. Ayant été entendus sous vérification mentale, ils sont absolument irréfutables. À divers titres, ils sont également, je pense, représentatifs de la tendance générale et illustreront concrètement mon propos dont je vous prie de bien vouloir excuser le caractère peut-être exagérément alarmiste. Qu'à tout jamais soit béni le saint nom du Kreutz. Votre humble et dévoué serviteur, Cardinal Fragius Molanalifule. Premier témoignage. Kojong Michen, ville d'Omichu, planète Yaokyo, des mondes du Levantin. Âge, 222 ans standard, 3 fois veuf, sans enfant.
Tous les matins, j'ai l'habitude d'aller prendre un bain dans l'eau du torrent Ozu,
qui coule sur le flanc de la montagne où se trouve ma maison. Ce contact avec l'eau glacée est excellent pour la peau du vieil homme que je suis. Le matin du jour de Boshi, alors que je retirais mon soriji et m'apprêtais à entrer dans l'eau, je vis soudain apparaître une femme et un homme de l'autre côté du torrent. Comme ils étaient tous les deux aussi nus que des enfants qui viennent de naître, j'ai tout d'abord cru qu'il s'agissait de voyageurs que le programmateur déficient d'une vétuste machine aurait expédié par erreur dans cet endroit où personne, hormis le modeste vieillard que je suis, ne se rend jamais. Intrigué, je me suis caché derrière un gros rocher, afin de pouvoir les observer plus à mon aise. Ils étaient tous les deux, la femme et l'homme, très beaux, d'une beauté qui n'est pas commune à nos contrées, et que je qualifierais de surnaturelle. Oui, c'est cela, surnaturelle. Me rendant compte que je n'avais absolument rien à craindre de ces voyageurs étrangers égarés, je sortis de derrière mon abri de pierre et manifestai ma présence dans le but de leur proposer mes services. Il était de mon devoir d'honorer ainsi la réputation d'accueil de notre peuple. Cependant, lorsqu'ils m'aperçurent, ils prirent peur. Mais au lieu de fuir, ce qui eût constitué la réaction normale d'individus effrayés, ils s'assirent sur la mousse bordant le lit du torrent, se prirent mutuellement les mains, et à ma grande stupeur, disparurent aussi brusquement qu'ils étaient apparus. À la différence près que, cette fois, mes yeux encore perçants pour l'homme âgé que je suis, on put constater qu'ils ne disposaient d'aucune machine de voyage. J'ai alors pensé, veuillez me pardonner ces résidus d'anciennes croyances profondément ancrées en moi, que j'avais été le témoin privilégié du passage sur notre dimension mortelle, de deux divinités des anciennes légendes jaokoïstes.
Second témoignage. Gurtraudmler, village de Möln, situé près de la ville de Münach, planète allemande du système Néo-Europe, âge 107 ans standard, marié, mère de 7 enfants dont 2 ont été condamnés à périr sur croix de feu à combustion lente pour propos blasphématoires.
Je les ai vus apparaître dans une rue de mon village, tous les deux, un homme et une femme, jeunes. Ils étaient tout nus, ils ont ri. J'ai été choqué. J'ai voulu aller chercher notre missionnaire. Il n'était pas là, il était parti au temple. Je ne savais pas quoi faire. J'ai eu peur. Mon mari était au champ avec les enfants. J'ai prié le Kreuz. Ils ont avancé vers moi. J'ai hurlé, j'ai couru. Ils ont crié. On ne vous veut pas de mal, juste quelques renseignements. C'était peut-être des démons et ils venaient voler mon âme. Il n'y a que les démons qui se promènent tout nus. Ils ont encore appelé « Madame, revenez !» L'homme courait après moi. J'ai eu très peur. Il a failli m'attraper. La femme a dit « Laisse-la, elle est terrorisée, partons. » Ils se sont assis au milieu de la rue. Ils ont uni leurs mains. Ils ont disparu. Comme ça. Disparu. Est-ce que je suis folle? Monseigneur, est-ce que je serai pardonné?
Pleure. Troisième témoignage. Alu Oteli, ville de Phil, province de Jaunille, planète Orange. Âge, 15 années standard. Deuxième fils de Galil Oteli et de Miliane Braikali, travaille à la fabrique de tapis de tissu de son père.
Papa et tous les employés de la fabrique étaient partis, puisque c'était mon tour de surveiller le balayage du soir. Au moment où je rangeais le robot aspirateur, j'ai entendu du bruit venant de l'entrepôt. Je me suis approché en silence. Là, j'ai assisté à un drôle de spectacle. Entre les tapis suspendus, il y avait un homme et une femme. Ils essayaient d'enrouler autour de leur corps des tissus légers, de ceux qui servent à la confection des petits tapis d'été. L'homme avait l'air de bien connaître la ville, car il en parlait comme s'il y avait séjourné pendant longtemps. De temps en temps, ils cessaient leurs essayages pour s'embrasser. Je trouvais que la femme était très belle. Elle posait des tas de questions à l'homme du genre de celle-ci. « Tu as vécu ici tout seul, sans la moindre famille ?» Et lui parlait de son enfance. D'après ce que j'ai pu comprendre, il est orangien comme moi, mais d'une autre province, de Violine peut-être. Ils semblaient beaucoup s'aimer. J'ai aussi deviné qu'ils étaient à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un, et qu'ils ne savaient pas trop où aller. Je me demandais ce qu'il fallait faire. Ils ne ressemblaient pas à des voleurs, et pourtant, ils s'étaient introduits dans l'atelier sans prévenir personne, en cachette. J'ai hésité un bon moment avant de me décider. Je me suis approché d'eux, mais je n'ai pas eu le temps de leur dire quoi que ce soit. Ils étaient assis sur une caisse de tissu, se tenaient par les mains, et tout d'un coup, ils se sont évanouis comme s'ils n'avaient jamais existé, comme de la fumée. J'ai d'abord cru que j'avais rêvé, mais lorsque j'en ai parlé à la maison, papa a tout de suite été vérifier s'il ne manquait rien à l'atelier. Il a constaté que deux bouts de tissu avaient été volés. Alors il m'a obligé à venir vous voir. Il voulait que je sois soumis à l'inquisition mentale, parce qu'il était persuadé que j'avais inventé toute cette histoire et qu'en réalité, c'était moi le voleur.
Quatrième témoignage. Speck Jenequin, de la ville de Nulonde, planète Nuenland. Âge, 60 années standard. Célibataire. Profession, explorateur. Auteur de nombreux ouvrages, livres, films, vidéos holo et reportages codés sur les tribus primitives des forêts tropicales de Nuenland, ainsi que sur le Trill, emblème de l'ordre Apsurat, animal excessivement difficile à approcher.
Je tiens à préciser que je suis opposé au principe de l'inquisition mentale et que je la subis contre ma volonté. Cela faisait une semaine que j'étais sur les traces d'un grand Trill, un géant à en juger par la dimension de ses empreintes. Bien qu'étant seul lors de cette expédition, je m'étais enfoncé très loin dans la jungle septentrionale du grand hémisphère sud, remontant le fleuve Thames à l'aide de ma pyrosurvie, une petite embarcation d'exploration qui peut se transformer en tente hermétique ou en scaphandre sous-marin. Un soir, alors que j'installais mon bivouac, je vis briller dans les buissons bleus bordant le Thames deux grands yeux verts, les yeux du Trill. Je croyais naïvement le pister, et c'était lui, en fait, qui me suivait, qui m'épiait. Intrigué, armé de mon pistolas et de ma camérabule, je m'avançais le plus silencieusement possible en direction du fourré, espérant pouvoir au moins filmer l'éventuelle course de sa fuite, mais, ayant flairé mon approche, il ne m'avait pas attendu et avait déguerpi. Oubliant alors toute prudence, abandonnant mon campement, la brissure de ma pyrosurvie, je me lançai à ses trousses sur la piste de ses empreintes et des petites branches d'arbustes brisées sur son passage. Et ainsi, sans m'en rendre compte, je franchis les limites du territoire tabou de la tribu des Choclets, l'une des peuplades les plus primitives qui soient dans l'univers, et que très peu d'explorateurs ont eu la chance d'approcher. À peine avais-je parcouru une centaine de mètres que je me trouvais encerclé par une meute de ces féroces guerriers, nus, petits de taille, totalement dépourvus de systèmes pileux et dotés d'une peau brique qui n'est pas sans rappeler la couleur du chocolat. D'où leur nom, Choclette, qui signifie chocolat en vieille langue terramatérienne. Je n'eus pas le loisir de me servir de mon arme ni de parlementer. Je possède quelques notions rudimentaires de langue tchou-tchou. Tchou-tchou, dénomination originelle de la tribu. Une flèche anesthésiante m'atteignit à la cuisse et je m'endormis sur le champ. Lorsque je me réveillai, j'étais suspendu par les poignets à la grande poutre centrale d'une gigantesque construction. Un enchevêtrement apparemment désordonné, anarchique, de grands troncs élagués et entrecroisés dont le sommet dominait les hautes cimes des grands arbres de la forêt. Je constatai que les Choclets, hommes, femmes, enfants, qui m'observaient en poussant de grands éclats de rire, avaient paré leur corps de peintures de fête, de rayures noires et rouges censées imiter la robe du Trill. Ils avaient recouvert leur crâne chauve de feuilles de valève jaune. Je crus d'abord que cette fête m'était destinée.
qu'il s'apprêtait à célébrer ma capture et à sceller le sort horrible auquel j'étais promis. Pour avoir visionné plusieurs films codes à leur sujet, je n'ignorais pas que je n'avais aucune clémence à attendre d'eux. « Je vous apporte le salut et la paix », tentai-je de plaider en langue chouchou. L'un d'eux vint au-dessous de moi et me cracha sur les mollets. « Ni salut, ni paix pour blanc violeur d'inviolable », me lança-t-il. « Le châtiment, la mort. D'abord le mariage des dieux, après la mort. » Que voulait-il dire par « mariage des dieux » ? Je n'eus pas longtemps à attendre pour avoir la réponse. Une troupe vociférante de femmes en transe sortit soudain d'une des grandes salles au toit de branchages érigés autour de la place. C'est alors que je les vis pour la première fois au centre du groupe. Une femme et un homme, jeunes tous les deux, très beaux, de peau blanche, vêtus de curieux tissus colorés drapés autour de leur corps. Les cheveux de la femme, très longs, avaient été tressés et ornés de feuilles de valet rose, plante traditionnellement dévolue aux cérémonies nuptiales. Derrière eux marchait le Houchu, le sorcier, au corps entièrement recouvert de petits serpents verts vivants, symbole de son pouvoir. La femme m'aperçut, suspendue à la poutre comme un vulgaire gibier, et me désigna du doigt à son compagnon. Ils se dirigèrent vers moi, fendant la troupe des femmes en transe. L'homme m'adressa la parole en langue nafle. « Que faites-vous ici ?»« Hello, ravi de vous rencontrer. Je suis Spec Jeannequin de Noulonde. Je suis explorateur. J'étais à la poursuite d'un grand thrill et j'ai involontairement franchi les limites du territoire Chouchou. Ils m'ont capturé. Et vous, qui êtes-vous ?»«
Deux simples voyageurs qui se marient. » me répondit-il.
« Mais peu importe, nous allons essayer de vous tirer de là. » Par geste, il ordonna aux Houchus qu'on me libérât. À ma grande surprise, les Chouchous s'exécutèrent et me délivrèrent de mon inconfortable position.
« Ils vont vous reconduire à la frontière de leur territoire, » dit la femme.
« Mais ne pourrais-je pas au moins savoir à qui je dois d'avoir la vie sauve ? » demandai-je. Davantage par curiosité que par reconnaissance. Les explorateurs sont très curieux de nature.
« Il vaut mieux que vous en sachiez le moins possible, » dit l'homme. Il ajouta en riant, « Nous désirons un mariage dans la plus stricte intimité. »
Je n'ai pas eu le loisir d'en apprendre plus. Une solide escorte de guerriers Chouchou m'encadra et me contraignit à amorcer la descente par un jeu d'échelles rudimentaires jusqu'au niveau de la forêt. Une journée de marche plus tard, j'étais de retour à mon campement sur la rive du fleuve Thames. Une foule de questions concernant cet étrange couple se bousculait dans ma tête. Avait-il été matérialisé par mes gardes dans cette forêt de Newenland? Et cette brusque apparition avait-elle tant impressionné les Chouchous qu'ils les avaient pris pour des dieux? Je n'arrivais pas à expliquer l'attitude déconcertante de cet homme et de cette femme. Ils semblaient ne pas se soucier d'un éventuel retour à la civilisation et n'être préoccupés que par leur seul mariage. Avaient-ils donc l'intention absurde de passer tout le reste de leur vie en compagnie de cette tribu sauvage, au milieu de cette forêt hostile?
Note additive du cardinal Molananiful.
Votre sainteté, et je me suis efforcé de classer ces témoignages dans un ordre chronologique. Ainsi, la version du jeune garçon d'Orange, outre la confirmation de l'identité orangienne de l'homme, corrobore celle de l'explorateur. Ces tissus colorés drapant leur corps ne sont autres que les étoffes qui servent à la confection des tapis légers et qui ont été dérobés à filets. Votre dévoué F.M. Autre note du cardinal Molananiful. Concernant cet explorateur, effectivement cet homme n'est pas venu témoigner de son plein gré. Il a été convoqué à la suite d'une dénonciation anonyme, ce qui explique en partie sa réaction rebelle, réticence qui lui vaudra d'ailleurs d'être condamné au supplice de la croix de feu à combustion lente.
Le fou des montagnes se départit soudain de son mutisme. Demande à l'esprit de la pierre de bien vouloir nous déposer ici, Charis. »
Son doigt désignait un torrent scintillant en contrebas qui dévalait joyeusement le flanc verdoyant d'un pic escarpé. Cela faisait plusieurs jours qu'il survolait un immense massif montagneux, plusieurs jours pendant lesquels le fou n'avait pas daigné adresser la parole à Charis. Mais l'enfant commençait à s'habituer aux brusques sautes d'humeur de celui qui l'avait recueilli, après la mort et la destruction totale des villes amérines. Il s'accommodait au mieux de ce silence et s'abandonnait alors sans réserve à la joie euphorique du voyage sur la pierre volante. Bonheur sans cesse renouvelé depuis que la reine ronde du champ emphanique s'était élevée pour la première fois dans les airs. Lorsque l'esprit de l'enfant et celui de la matière sont enfin parvenus à s'harmoniser, à s'unir, la pierre prend son majestueux et silencieux envol sans qu'il ait besoin de l'en prier et se pose délicatement quelques mètres plus loin en soulevant une fine pellicule de poussière grise.
« Enfin !» déclara le fou des montagnes qui observe la scène du haut d'une pierre, cheveux et barbe au vent, yeux noirs brillants de malice. « Nous allons disposer d'un engin de transport. Nous en avions un besoin urgent pour entreprendre les recherches. »
Charis se demande de quelle mystérieuse recherche il peut bien s'agir, mais ne réussit pas à en savoir davantage. Durant les jours qui suivent ce premier succès, avec l'aide précieuse des conseils éclairés du fou, il s'entraîne à diriger l'énorme masse rocheuse, à maîtriser la durée et la longueur de son envol, à nouer à volonté le lien subtil qui relie son âme à celle de la matière. Puis vient l'instant tant attendu où il se juge sur le dos rond de sa monture qu'il chevauche tel un fier conquérant. Docile, elle obéit à ses injonctions pensées, se dirige où il lui demande, survole l'ancien volcan qui abritait Exode, la ville amérine, rend visite aux nuages bas qui habillent les contreforts rocheux, fonce au-dessus des plateaux arides brûlés par le soleil. Son ombre silencieuse disperse les troupeaux des craintives et gracieuses gazelles des sables. Charis pense à sa mère, imagine sa réaction de fierté à la vue de son fils domestiquant la pierre du champ sacré, un prodige qu'aucun des arrogants enfants n'est jamais parvenu à accomplir. La pierre fait alors une brusque embardée, et il manque de peu se faire précipiter dans l'abîme entre les pics voisins.
« À l'avenir, ne te laisse pas emporter par ton orgueil. »
commente le fou dès l'atterrissage de la pierre.
« Sinon, l'esprit de la matière s'éloignera de toi. Tu es un instrument dans les mains du grand compositeur. Crois-tu que l'instrument puisse s'identifier à la musique ? Nous partons dès demain à la recherche du site, où ceux que nous attendons doivent nous rejoindre. Le moment n'est pas bien choisi pour se livrer à des enfantillages. Si tu fais fuir l'esprit de la matière, alors comment pourras-tu réaliser ce qu'il t'est demandé de réaliser ? »
Le lendemain, à l'aube, le fou et l'enfant avaient pris place sur la pierre. Les cimes proches des Himlias tachaient de blanc la grisaille matinale. Les étoiles lointaines s'éteignaient peu à peu, minuscules luminaires soufflées de la voûte céleste pâlissante.
« Vous savez où nous allons ? » demanda l'enfant.
« Pourquoi et comment le saurais-je ? »
s'exclama le fou en riant.
Tu n'as qu'à diriger la pierre vers l'est, en direction du soleil levant. Tu n'as pas envie de contempler la grande chaîne des Himlias d'en haut ?
Pendant 3 jours, la pierre avait donc survolé les Himlias, pénétrant dans la blanche étoupe de brume qui submergeait les hautes crêtes, contournant les larges parois hérissées de pitons effilés, longeant les profonds et mystérieux défilés, frôlant les sommets enneigés, voguant au-dessus des mers verts et or des interminables forêts qui recouvraient plateaux et vallons, se fondant dans l'éblouissante clarté du chaud soleil. 3 jours durant lesquels le compagnon de voyage de l'enfant, absorbé dans sa contemplation attentive du paysage, était demeuré emmuré dans son silence. À la tombée de la nuit, il se contentait de faire un petit signe à l'enfant pour que celui-ci priât la pierre d'atterrir. Une fois au sol, Charis était chargé de trouver un abri pour passer la nuit, tandis que le fou s'en allait cueillir herbes et fruits pour leur second repas de la journée, en général froid et frugal.
Il dormait dans des grottes sombres, enroulé dans des couvertures grises d'une étoffe épaisse et rêche identique à celle de la robe du fou. L'étrange rêve peuplait le sommeil de l'enfant, et il lui arrivait de se réveiller en sursaut au milieu de la nuit, couvert de sueur glacée. Un bras amical entourait alors son épaule et, rassuré, il se rendormait aussitôt. Le matin, après un petit déjeuner succinct, baies sauvages, acides, racines amères ou graines séchées, et une toilette sommaire dans l'eau d'une source proche, il grimpait sur l'échine rigide de la pierre. Charrie établissait la communication subtile avec l'esprit de la matière, et au bout de quelques instants, elle décollait du sol moussu et se mêlait au vol des grands aïouls noirs et blancs qui quittaient leur aire pour leur chasse quotidienne. Charrie demanda à la pierre d'amorcer sa descente au-dessus du torrent qui projetait en l'air des gouttes de lumière.
« C'est là ? »
demanda-t-il timidement.
« Mais il se pourrait bien, » répondit le fou.
« Comment le savez-vous ? » insista Charrie, dont la curiosité dévorante était loin d'être rassasiée. Il éprouvait, de plus, un immense et soudain besoin de parler après ces longues heures de silence forcé.
« Je ne sais rien, mais l'eau de ce torrent nous interpelle. Tu ne l'entends pas ?»
La pierre se posa en douceur sur l'herbe dense qui bordait le lit tortueux de l'impérieux cours d'eau. Le fou s'assit sur la berge du torrent et plongea les pieds dans l'eau.
« L'eau me dit que nous devons rester ici jusqu'à la tombée de la nuit, »
ajouta-t-il,
« car aujourd'hui est le jour. S'ils ne manifestent pas leur présence avant ce soir, alors il faudra attendre que s'écoule, comme cette eau, de nombreuses générations avant que l'humanité puisse retrouver une petite chance de sortir des ténèbres.
« Qui ? Il ?» demanda l'enfant qui s'était installé près du fou. Il laissait lui aussi tremper ses pieds dans l'eau glacée. Il espérait, en imitant son compagnon, déceler une voix audible dans le murmure confus du torrent. Mais à son grand désappointement, l'élément liquide ne lui adressa pas la parole.
« Ceux sans qui la tâche immense qui t'attend ne pourra pas s'accomplir, » répondit le fou. « Ils sont les piliers de l'édifice que tu vas avoir à construire. S'ils ne viennent pas, tu devras comme moi demeurer dans ces montagnes, avancer seul sur la voie de la connaissance et former un successeur, qui à son tour s'efforcera de perpétuer la tradition jusqu'à l'avènement de jours nouveaux, propices à l'expansion de ce savoir accumulé et codifié par nos maîtres. Nous sommes à un moment clé où tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. L'univers mérite-t-il qu'on se soucie encore de lui ? Est-il digne d'échapper à la vague de destruction qui cherche à l'engloutir ? Eux seuls détiennent la réponse, car sur eux se pose la main du grand musicien.
« Pourquoi ne viendrait-il pas alors ? »
s'écria l'enfant.
« Parce qu'ils ont le choix. Tout être humain, à quelque niveau qu'il soit, a toujours le choix. Seule la liberté de l'âme donne sa pleine valeur à une décision, lorsque l'on est déterminé à devenir le fidèle exécutant du grand dessein, la note juste dans la mélodie. Il faut que ça soit sans l'ombre d'une contrainte, sans l'ombre d'un regret.
« Mais ils ne peuvent peut-être pas, » plaida l'enfant. « Est-ce qu'ils ont des pierres pour voyager ?»
Le fou libéra un rire aussi cristallin que l'eau limpide du torrent. Puis il fixa l'enfant avec beaucoup de tendresse.
« Si toi, tu utilises ta pensée pour parler avec l'esprit de la matière, eux, ils voyagent directement sur leur pensée. L'éther est leur véhicule. De quel autre support pourraient-ils avoir besoin ?»
Le soleil, cercle d'or sur écrin céruléen, déjà haut dans le ciel, les léchait de sa tiède caresse. Une douce chaleur s'installait à l'intérieur du corps de l'enfant, l'engourdissait, l'enivrait légèrement. Dans le calme apaisant de cette contrée montagneuse, bercée par le chuchotement continu du torrent, il se sentait envahi de bien-être, de sérénité. Des bulles de béatitude éclataient en lui, légères, ineffables. Il ne faisait plus qu'un avec l'environnement. Il n'était plus coupé, dissocié de lui. Au contraire, nature et enfant, chacun à leur manière, chacun à leur niveau, constituaient les maillons liés les uns aux autres d'une chaîne infinie de lumière. Il avait maintenant l'impression de distinguer clairement le chant du torrent, les notes émises par les innombrables gouttes qui composaient la symphonie de l'eau bondissante. Elles célébraient la gloire de la création. Lorsqu'il émergea de son ravissement extatique, il se rendit compte avec stupeur que le soleil avait déserté la plaine céleste assombrie et que l'armée sournoise du crépuscule commençait à cerner reliefs et contours. Le fou avait lui aussi disparu. L'enfant eut beau jeter des regards apeurés autour de lui, il ne parvint pas à distinguer la silhouette familière. Les heures avaient défilé à une vitesse effrayante, et aucun visiteur ne s'était encore manifesté. L'enfant pensa avec tristesse aux paroles du fou, porteuses des terribles promesses des malheurs du monde. Il fixa farouchement la berge opposée, noyée de ténèbres, comme si son regard avait la subite vertu de provoquer l'apparition de ceux qui pouvaient encore éviter l'irréversible catastrophe. Il avait vu sa mère, liée au poteau sacrificiel, endurer un véritable calvaire, et il lui semblait inconcevable, abominable, que d'autres mères et d'autres enfants pussent un jour être confrontés à la même épreuve. Il crut apercevoir des formes mouvantes sur les rocs escarpés qui surplombaient le cours d'eau. Fou d'espoir, il se releva et escalada agilement l'éperon rocheux. Hors d'haleine, mains, bras et torse griffés, il déboucha sur une corniche exiguë au bord de laquelle le torrent se transforma en cascade échevelée avant de reprendre son cours habituel. Il vit alors un homme et une femme drapés dans de longs tissus colorés, assis à même le sol pierreux, l'un en face de l'autre, yeux clos, se tenant par les mains.
« C'est vous ?»
cria précipitamment Charis, pris d'une inexplicable peur de les voir soudain s'évanouir. Les paupières de la femme et de l'homme se soulevèrent, et leurs yeux s'efforcèrent de percer les ténèbres naissantes.
« C'est vous que le fou des montagnes attend ?»
répéta l'enfant au comble de l'excitation en s'approchant du couple.
« Qui es-tu, enfant ?» demanda la femme d'une voix douce.
L'enfant n'avait jamais contemplé une femme d'une aussi grande beauté. Les fines tresses de ses longs cheveux aux reflets d'or étaient ornées de fleurs roses. Quant à l'homme au visage encadré d'une barbe fournie, des traits de peinture rouges et noires encerclaient ses bras nus.
« Je suis Charis Rapouline, »
répondit l'enfant avec une fierté empreinte de naïveté qui les fit sourire.
« Nous sommes venus ici, moi et le fou des montagnes, avec la pierre volante pour guetter l'arrivée des visiteurs. Est-ce que c'est vous les visiteurs ?»«
Qui est ce fou des montagnes dont tu parles ?» interrogea l'homme.
« C'est lui qui m'a recueilli après la mort de ma mère. Lui qui m'a appris comment parler avec l'esprit de la pierre. Il connaît un tas d'autres choses. Il m'a dit par exemple que vous voyagez sur les pensées. Est-ce que c'est vrai ?»
L'homme et la femme se consultèrent du regard. Puis elle dit
« Nous aussi, depuis quelque temps, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Nous nous apprêtions à repartir, car nous pensions que ce monde n'était pas habité et qu'il ne servait à rien de rester plus longtemps. Peux-tu nous présenter cet homme ? S'il sait autant de choses que tu le prétends, peut-être pourra-t-il nous aider dans notre recherche.
« Venez avec moi !» s'exclama l'enfant enthousiaste. « Il ne doit pas être bien loin. Il va souvent cueillir des herbes quand le soir tombe. »
Au moment où le couple et l'enfant entamaient leur descente sur les échines rocheuses, une voix retentit brusquement.
« Inutile de me chercher plus loin, je suis là !»
La silhouette du fou des montagnes se découpait de l'autre côté de la cascade, comme surgit par enchantement de la muraille aquatique. Il y eut un long moment de silence, pendant lequel la femme, l'homme et le fou s'observèrent mutuellement. Les yeux intrigués de l'enfant allaient de l'un à l'autre comme des papillons effarouchés ne sachant où se poser. Ce fut l'homme qui rompit le silence en premier.
« Je suis Tixu Oti d'Orange. Voici mon épouse Afikit, fille de Sri Alexu de Syracusa. Je crois que c'est vous que nous cherchions. »
Le visage radieux du fou s'éclaira d'un large et bienveillant sourire. Ses dents blanches étincelèrent dans la nuit de sa barbe.
« Je suis celui qu'on appelle le fou des montagnes,
de Terra Mater, et je vous attendais. »
L'enfant, n'y tenant plus, hurla.
« Alors c'est eux ! Ce sont eux ! Ce sont eux !»«
Ne crie pas si fort !» le reprimanda le fou. « Nos amis ne sont pas sourds. »
Tixou et Afikit semblaient transis d'émotion. Le fait d'être enfin parvenus au bout de leur longue quête les laissait soudain sans force, comme vidés de toute énergie. La rencontre tant attendue avec cet homme, celui qu'ils considéraient comme le troisième maître, les emplissait d'une timidité excessive, les écrasait subitement d'un lourd fardeau d'humilité. Pendant des semaines, ils avaient voyagé sans relâche, ne prenant pas le temps de se reposer, allant jusqu'au bout et même au-delà de leurs possibilités physiologiques. À peine l'étrange cérémonie de leur mariage célébrée par la tribu de la forêt s'était-elle achevée, ils étaient immédiatement repartis, poursuivant inlassablement leur quête.
« Je ne suis pas le troisième maître, » dit le fou comme s'il avait deviné leur pensée. « Je ne suis qu'un médiateur, et je vais bientôt quitter ces mondes. L'enfant et vous êtes désormais les trois maîtres. »
L'appel des mondes intermédiaires était de plus en plus fort. Le fou avait reconstitué la chaîne, et il pouvait maintenant partir en paix. Il remarqua l'immense fatigue qui creusait les traits de ses interlocuteurs.
« Venez, je vous ai préparé un bon repas. Nous aurons tout loisir de parler ensuite. »
L'enfant dévala la pente à toutes jambes, cabri sautant lestement d'une pierre à l'autre. Il oublia dans sa hâte d'attendre les nouveaux arrivants qui, eux, main dans la main, prenaient tout leur temps pour descendre. Il y avait si longtemps depuis la mort de sa mère que Charlie n'avait pas fait un bon et vrai repas.